partout.
Ça se faisait en France.
Je crois qu'elle est banque.
Tout le monde attend tout de suite.
La cour et le jury réunis condamnent Jacques Bérine à la peine de 20 années de réclusion criminelle.
Vous voulez m'enfermer?
Touche le doigt de papa.
Tu me manques.
Allez-y, enfermez-moi.
On fait comment sans toi?
Et sachez que je m'évaderai.
Je t'aime pas.
Et ça, vous pouvez compter sur moi.
C'est quoi ces conneries, Jacques?
Va chier, Mesrine.
Comme tu veux toujours avoir le dernier mot, tu te retrouves toujours tout seul.
Tire pour tuer.
Et c'est comme ça que tu finiras, Mesrine, tout seul.
Moi.
Tu as ta canne dès l'heure.
Police, rendez-vous. Tu me salis, moi.
Personne ne me tue tant que j'ai pas décidé.
Voilà, bah écoutez, avant toute chose, félicitations pour votre César. J'ai eu l'occasion de vous le dire l'autre jour au téléphone, mais je vous le redis maintenant, puisque c'est quand même un César qui est dûment mérité pour toute l'équipe, pour vous-même également.
Oui,
un film en deux parties qui est extrêmement intéressant, qui a été d'ailleurs récompensé également à votre endroit au César. Et donc, je voulais un petit peu savoir si on pouvait revenir un peu sur votre parcours personnel, par rapport à vos études, par rapport à votre évolution dans le métier. Qu'est-ce qui vous a mené sur la voie du son, du montage, du mixage, etc., etc., pour commencer?
Alors, en fait, moi, au tout début, quand j'étais jeune, je voulais être acteur.
Oui.
Je vais vouloir faire intégral, mais rapide. Hein. Donc, je voulais être comédien. Puis, mais ça m'a pris assez tôt, vers 13 ans. Donc, j'ai fait beaucoup de théâtre, en fait. Et puis, on va dire que vers 20 ans, j'ai pas vraiment abouti là où je voulais arriver. Et puis, aussi, on va dire que l'égocentrisme et le narcissisme que demande cette envie d'acteur m'avait un petit peu quitté. Enfin, je veux dire, je pensais à me préoccuper un peu d'autre chose que de moi-même.
Mm-hmm.
Donc, je suis parti faire complètement autre chose. Je me suis dit, bon, voilà, ça j'arrive pas à percer, j'étais impatient, j'avais quand même derrière moi 7 ans de théâtre, et je me suis dit, bon, allez, je pars sur autre chose. Et puis, finalement, très rapidement, je suis revenu à mes premières amours qui étaient le cinéma en faisant une école privée d'audiovisuel.
Mm-hmm.
Donc j'ai fait le CLCF à Paris, qui est pas une école qui est très cotée, on va dire, mais qui est une école quand même. Je suis revenu vers 23-24 ans, et puis je m'étais dit, voilà, je vais essayer de me lancer dans l'assistanat à la réalisation. Enfin, je suis très intéressé quand même par le cinéma, ce milieu, le tournage. Et puis on fait cette première année d'école qui est un tronc commun, en fait, hein, voilà, où tout se passe très bien, je fais partie des bons éléments, on va dire, de ma promotion, ce qui fait que ça me déclenche en fait un stage labo que je peux aller faire chez GTC, mais l'année d'après.
Mmh.
Et en fait, juste pour vous expliquer, à la fin de la première année de cette école, on devait en fait voir exactement ce qu'on ferait l'année d'après dans la section qu'on choisissait. Il y avait donc trois sections: assistant réal, script et montage. Et donc moi je voulais passer sur l'assistanat à la réalisation, et alors il nous explique qu'en fait on pourrait effectivement donc tourner un court-métrage, mais on nous impose un découpage en 10 plans. Et là, évidemment, moi j'étais très déçu, puisque j'avais quand même une petite idée de ce que je voulais faire, et j'avais pas du tout envie, en fait, de faire un film dont le découpage était imposé. Et en plus de ça, ce découpage imposé en 10 plans, il était aussi imposé dans le studio interne à l'école. Donc en fait, un petit peu entre guillemets par dépit, je me suis dit, bah, je ferai pas assistanat à la réalisation, puisque ça ne correspond pas du tout à ce que j'avais envie de faire. Et donc je me suis dit, bon bah allez, je m'inscris en montage, sans du tout savoir en fait au préalable que ça me passionnerait, en fait. Hein.
Mmh.
Et donc je me suis inscrit sur la spécialisation, enfin si on peut appeler ça une spécialisation, moi j'appelle ça une initiation, au montage, et donc l'année d'après, j'ai fait mon stage labo, et puis eu un an de formation, de première grande formation sur des tables Atlas 16 mm. Et on a travaillé un peu sur une 35, sur une table de montage 35. Voilà, ça a commencé comme ça.
D'accord, premier contact avec le cinéma. Donc
premier contact avec le cinéma, voilà. Avec le montage, et découverte en fait du montage. Donc c'est vrai que ça m'a assez émerveillé. Mais j'étais plus sur l'image, en fait. Mmh. Au sort de mon école, j'avais une cousine qui travaillait chez Claudie Ossard, à l'époque de la post-production de La Cité des Enfants Perdus, et elle arrive à me faire rentrer, en fait. Claudie Ossard avait aussi une boîte de prod arrive à me faire rentrer donc comme technicien qui s'occupe de monter les castings et de faire les bandes démo des réels de pub, hein, parce qu'elle avait quand même pas mal de réels en exclusivité. Et donc là, j'arrive là-bas et je me retrouve en fait dans cet endroit émerveillé, entouré de Jean-Pierre Jeunet, Mirko Sturica, enfin juste des gens assez impressionnants.
Bien sûr.
Qui avait produit en fait Claudie et qui était aussi donc des réels qu'elle avait en exclu au niveau de la pub. Donc je me là en train de faire des bandes démos pour ces réalisateurs-là. C'est vrai que les bandes démos, ça, il y avait rien de créatif pour nous puisqu'on ne faisait que faire des belles cassettes de présentation avec un noir, une pub, un noir, une pub, un noir, et puis de temps en temps un espèce de petit montage qu'on faisait nous, qu'on proposait d'un melting en fait comme un medley des pubs qu'ils avaient fait. Mmh. Mais bon, ça m'a mis vraiment un pied dans une production. Et là, j'ai rencontré Diane Bertrand, qui était à l'époque la femme qui partageait la vie de Jean-Pierre Jeunet, qui préparait son premier long métrage. Et comme je m'entendais plutôt bien avec elle et que étant placé au banc de montage trois quarts et faisant m'occupant aussi des castings du filmage et du montage des castings, j'ai développé une amitié avec elle et j'ai pu comme ça. Elle m'a proposé en fait de m'emmener sur son film en tant que deuxième assistant réal. Et là, j'ai persévéré et je lui ai dit que j'aurais vraiment préféré pouvoir faire un stage en tant que stagiaire monteur sur son film. Donc elle m'a dit, mais pas de problème, elle m'a envoyé voir sa monteuse qui était Marilyn Montieu, que j'ai rencontrée, et puis voilà, me voilà parti donc sur un stage de montage sur le premier long métrage de Diane Bertrand, qui s'appelait Un samedi sur la Terre, oui, qui était avec Elsa Zilberstein et Eric Caravaca. Mmh. Et donc là j'étais stagiaire monteur 35, donc j'ai quitté chez Claudio Sarr pour partir, et en fait voilà, ça a été le départ de, entre guillemets, ma carrière, j'ai pas trop le mot, mais ça a été vraiment le départ officiel, et puis tout s'est enchaîné après. Après ça, j'ai découvert en fait les premiers balbutiements du montage virtuel sonore, puisqu'en fait on avait un monteur qui s'appelait Emmanuel Ojard, qui faisait le montage son en biphase avec une TAP 35 et un DD 1500, c'était les premiers montages des 1500. Donc j'ai découvert cette machine en fait, mmh, et pareil, j'ai été grand coup de cœur pour le son en fait. Et puis ensuite, voilà, j'ai commencé plutôt à être assistant monteur image, mais sur des téléfilms, parce qu'après après cette aventure-là, j'ai travaillé un petit peu à droite à gauche, et j'ai rencontré un autre monteur qui s'appelle Marc Daquin, qui montait plus des téléfilms, et j'ai été son assistant. Et puis très vite, j'ai proposé de commencer à faire les montages son des téléfilms sur lesquels j'étais assistant image. Voilà. Et en fait, moi, ma formation en montage son, elle vient de là.
D'accord.
Et vient des nombreux téléfilms que j'ai fait.
Je crois qu'il y a, vous avez travaillé sur la série Joséphine Ange Gardien.
Absolument. Voilà. Ça a commencé. Alors, j'ai fait des unitaires avant la série Joséphine, mais j'ai fait beaucoup de montage son sur Joséphine Ange Gardien. J'en ai monté trois à image aussi, en tant que chef monteur image. Bon, enfin voilà, je roulais un peu ma bosse, et puis c'est vrai que ça me plaisait bien tout ça. Et puis je faisais aussi des courts-métrages pour des réalisateurs en devenir, entre guillemets, et j'ai rencontré à cet effet-là, comme ça, sur un court-métrage Olivier Mégaton, qui était aussi un réal de pub en fait. Mmh. Et puis on a fait un court-métrage avec Olivier qui a mixé François Groux, c'était mon premier contact avec lui aussi à l'époque, puisque c'est le mixeur de Mesrine. Mmh. Et ça s'est très bien passé, et c'est vrai que bon, moi je commençais vraiment, vraiment de plus en plus à avoir envie de décoller sur le son et ne faire que ça. Donc après, je me suis perfectionné en faisant quelques stages Pro Tools et compagnie. Et puis j'ai rencontré, suite à un court métrage que j'avais fait pour Mégaton, qui était en fait le court métrage qui était la répétition de son long métrage Exit qu'il a fait après. Par ce court métrage et par le son, j'ai rencontré un directeur de prod qui m'a présenté Siegfried. Et j'ai fait mon vrai premier long métrage en chef monteur son sur voilà, Louise Tektou, qui s'appelait précédemment en fait au départ La Jeune Fille, et qui était le premier long métrage, je crois, de Siegfried aussi, mixé par François Groux. Et j'ai surtout rencontré quelqu'un qui a été très important pour moi après, Hervé Schnell, le monteur. Mmh. Voilà, et en fait ben voilà, là j'ai donc sérieusement mis un grand pied dans le cinéma, et puis ça s'est un petit peu plus jamais arrêté, et puis après c'est un peu le CV qui peut vous raconter le parcours, quoi.
Exactement. Et quand on regarde votre CV, on commence par Joséphine Ange Gardien, je crois que c'était dans les années, au début des années 2000, me semble-t-il, ou un petit peu plus tôt, peut-être.
Un peu plus tôt, ouais.
Un peu plus tôt, 98-99, quelque chose comme ça. Ouais. Et puis ensuite, on remonte le temps, le fameux destin d'Amélie Poulain, le pianiste, la sirène rouge avec Olivier Mégaton, encore ouais. une fois. On a pas mal de choses, mauvais esprit, Michel Vaillant, un long dimanche de fiançailles, etc., etc. On continue, ouais. les brigades du Tigre, Angela, Taken récemment, et puis évidemment, Mérine plutôt, qui vous a forcément ouais. parlé à César. Donc l'évolution a été finalement assez rapide. Et comment se fait-il qu'on puisse passer d'un univers finalement visuel à quelque chose qui touche le domaine acoustique? Quel a été finalement en vous ce départ, ce souhait, cette volonté de passer d'un univers à un autre, même si les deux sont effectivement complètement liés puisqu'on parle de cinéma?
C'est simplement de la sensibilité et de la matière à modeler et la grande flexibilité de la matière première qu'elles sont. Moi, je trouvais ça fantastique de voir ce qu'on pouvait déjà faire il y a 10 ans avec du son, quoi, de le ralentir, de l'accélérer, de le passer dans une réverbe, de le traiter dans un filtre. Enfin, je trouvais ça génial, quoi. Donc, c'est vrai que tout a évolué avec les plugins et toute la technique ensuite qui est venue dans le montage virtuel pour triturer les sons. Donc, je trouvais, en fait, je pense que ce qui m'a vraiment plu dans le son, c'est que c'est une matière malléable avec des instruments divers et variés qui fait qu'on s'ennuie presque jamais et qu'on n'a jamais besoin de recommencer la même chose. Il n'y a pas de routine dans le son, c'est tout le temps différent.
Absolument.
Voilà, alors après c'est vrai, quand on monte des ambiances d'extérieur, village, ça on peut dire que finalement on va refaire la même chose, mais peut-être qu'avec la chance d'avoir beaucoup travaillé sur des effets sonores, je me suis jamais ennuyé, et puis en fait très sincèrement aussi je pense que c'était beaucoup plus difficile d'avoir une crédibilité en tant que jeune monteur d'image. J'arrivais mal à pouvoir moi j'avais envie de travailler quand même, donc j'avais envie de travailler, d'avancer. C'est vrai que cette envie de progression, ouais, je l'ai depuis toujours, donc j'ai senti que j'allais être un peu bloqué, parce qu'en fait au moment où moi j'ai commencé à être assistant monteur d'image, c'était un petit peu le moment où le montage virtuel était en train d'arriver. Et on sentait qu'en fait, c'était donc tous les monteurs traditionnels qui prenaient la main, qui prenaient le pas sur le montage virtuel, que tous les jeunes assistants qu'on était un peu les gens qui comprenaient plus vite que les anciens, entre guillemets. Hein, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, mais toute cette technique nouvelle et tout ce rapport à l'informatique. Et que donc, finalement, il y avait un grand temps avant que on puisse s'installer un peu aux commandes des trucs. Or, au son, on nous fout une paire royale au son. Je veux dire, le son, c'est ça s'écoute, c'est ça se juge sur ce qu'on entend. On vous demande pas. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est une matière, c'est quelque chose qu'on fait soi-même de son côté. Et en fait, en technique sonore, il n'y a pas, à part les professionnels, personne n'est très intéressé de savoir exactement comment ça se pratique, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc en fait, on a une espèce de liberté de fait qui est beaucoup plus intéressante et qui finalement vous débride artistiquement, quoi. Voilà, je dirais ça. C'est certainement ce qui a fait qu'en fait j'ai pu trouver une excitation beaucoup plus ouais, c'est ça, une excitation plus rapide. Et puis ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que les choses appelant les choses, le parcours s'est fait tout seul. Moi mon problème, c'est que j'arrive pas à prendre des vacances, en fait. C'est un peu ça, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mon problème, ça a été de... Je suis un peu l'angoissé du garçon qui sait pas dire non. Et du coup, je me suis un peu fait manger. Et bon, évidemment, aujourd'hui, j'arrive à mieux gérer. Mais voilà, la spirale a commencé. Puis moi, ça finit pas de tourner depuis que ça a commencé, quoi.
Depuis que ça a commencé. Encore,
voilà.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus particulièrement? Est-ce qu'on parle plutôt de design sonore, de sound design, de mixage, de montage? Quel est véritablement le domaine de l'acoustique au cinéma qui vous attire et qui vous intéresse le plus, finalement?
Eh ben, c'est constamment en progression. Cet intérêt. C'est-à-dire qu'au départ, je voulais savoir monter des choses naturelles. Après, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au sound design. Ensuite, j'ai commencé à vouloir faire des effets plus typés américains. Ensuite, j'ai etc. Et après, en fait, moi, ce qui est capital pour moi, c'est que je fais partie des monteurs qui n'ont pas de recettes, qui se remettent systématiquement en question à chaque film, et je ne refais jamais deux fois la même chose. Je ne monte pas deux armes de la même manière un film sur l'autre. Je ne veux pas garder des recettes. Parce que c'est ça qui devient une routine, et c'est ça qui finalement vous fatigue et enfin ce que je veux dire voilà c'est là où vous allez perdre votre père et votre passion et donc en fait ce qui m'intéresse c'est de progresser et aujourd'hui je peux dire que j'ai très envie de glisser vers le mixage mais tout en étant absolument tranquille et pas pressé parce que j'ai encore bien des choses à faire dans le montage mais c'est vrai que maintenant pour vraiment m'exciter entre guillemets faut quand même que je passe par des choses qui me ça veut pas dire que ce soit des gros projets mais par des choses qui vraiment me m'attirent parce qu'il y a une nouveauté parce qu'il y a quelque chose là après mes films j'ai envie de faire un film entre guillemets classique avec plutôt des choses calmes plutôt des vous voyez ce que je veux dire
absolument.
On a envie d'aller au contraire de ce qu'on vient de faire et moi c'est vraiment ça et là je pense que je commence à avoir envie de finaliser un petit peu et donc d'être en mixage parce que si vous voulez j'arrive à un moment dans le montage son où quand je commence à travailler j'ai l'impression d'avancer les choses et d'être presque déjà faire du prémix donc pourquoi pas passer le pas et commencer à progresser vers l'idée de commencer à mixer ce que j'ai un petit peu commencé à faire pour des courts-métrages, pour des documentaires et voilà. Alors moi j'ai la chance d'avoir un studio, j'ai la chance d'avoir beaucoup travaillé et donc de pouvoir avoir monté une société qui loue ces machines. Et du coup avec ça, on a depuis 2 ans des locaux et on a monté un outil. Donc en fait si vous voulez, au lieu, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et je viendrai au mixage par mes propres moyens pour froisser personne. Et quand je serai prêt à dire clairement dans la profession, bon maintenant je souhaite mixer officiellement. Mais c'est vrai que j'aurais pu faire tout mon apprentissage personnel, en tout cas chez moi, puisqu'on a une table de mix, on a des réverbes, on a du hardware, en fait on a tout le matériel pour travailler, pour finaliser, pour mixer. Donc voilà, après c'est une expérience qui démarre, et voilà. Alors aujourd'hui il y a ça qui m'intéresse, et sinon ce qui m'intéresse aussi beaucoup c'est de superviser des grosses machines, et donc là de travailler sur des grosses équipes, et de changer un peu le rapport de la manière dont c'est fait aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment de faire un peu de l'encadrement de post-prod, donc c'est-à-dire de choisir un peu les recettes qu'on va utiliser pour travailler, pas toujours être dans ce qui se fait usuellement, et donc de changer un peu les choses, de proposer un team, et en fait si vous voulez plutôt penser en esprit d'image de marque, on va faire le son chez Analog Factory, c'est ma boîte, donc on va garantir image du marque et une facture sonore, mais dedans il y a un team. Voilà, et ça c'est très excitant, c'est très intéressant, et je pense que c'est un petit peu l'avenir du montage son quand le milieu des intermittents se sera effondré, enfin quand le statut des intermittents se sera effondré. Il faudra on sera tous on travaillera pour telle ou telle ou telle boîte en fait, vous voyez ce que je veux dire quoi.
Absolument, oui, tout à fait. Tout à fait.
Donc en fait j'ai un peu anticipé ça en me disant bon ben cette société qu'on peut monter c'est ça peut être aussi l'endroit qui peut développer cette image de marque et on sera prêt au moment où ça va donc tourner quoi.
Enfin,
je pense qu'il y a beaucoup de petites boîtes qui sont montées, on sent qu'on commence à pouvoir proposer des bandes son qui en main qui est exactement de la méthode dont je vous parle, c'est-à-dire un espèce de superviseur sonore qui garantit en fait à la production le résultat et puis en même temps qui mélange un peu tous les métiers de la post-prod sonore, le choix de bruiter là, de faire des bruitages d'effets avec des gens pour ensuite donner au monteur, de travailler sur les sons, de prémixer les séquences avant de les envoyer en mix, de changer un peu les méthodes, quoi.
Bien sûr, d'accord. Et justement, au niveau technique et théorique, pour nos auditeurs, justement, quelle différence voyez-vous et quelle différence existe-t-il entre un mixeur, finalement, et un monteur son en particulier? Parce que le grand public, parfois, mélange un petit peu ces termes. On rencontre beaucoup de choses dans beaucoup de chroniques, de titres, DVD ou Blu-ray qu'on trouve sur Internet de nos jours. On parle souvent de mixage, 5 points, qu'il soit détonnant, etc., etc. Et on oublie de mentionner au passage le montage, qui n'est pas une étape qui est finalement préliminaire, en même temps, qui préexiste un petit peu à tout ça, et qui aboutit quelque part au mixage, mais quelle finalement est la définition quelque part d'un mixeur et d'un monteur?
Le monteur, c'est celui qui va donner à manger au mixeur.
Voilà.
Et donc, il n'y a pas de mixage possible s'il n'y a pas eu au préalable de montage. Et après, le mixeur, à la différence du monteur, lui, il va avoir une objectivité toute nouvelle puisqu'il n'est pas quelqu'un qui a travaillé sur toute l'élaboration de la bande-son, mais elle lui arrive entre les mains tout d'un coup. Et donc, il a cette grande fraîcheur de pouvoir entendre et de pouvoir donner une dimension supplémentaire, justement, par sa nouveauté, par, si vous voulez, ce qui peut transcender de toutes ces sources sonores qui lui arrivent telles qu'elles lui arrivent. Mmh. Donc, en fait, finalement, il y a quand même un grand potentiel artistique chez Dominique Ferrosi, au-delà de gérer toute une technique, parce qu'il y a énormément de choses qui vont lui passer sous les doigts, les effets sonores, les paroles, les ambiances, les musiques, les bruitages, etc., etc. C'est vrai que ça fait un petit peu peur comme ça, on imagine un gros film où tous les faders, enfin toutes les pistes sonores qui sont à mélanger, donc le mixeur c'est celui qui va finaliser le mélange en fait, il va mélanger tout ça pour l'harmoniser au mieux, et puis ensuite pour redonner des directions artistiques à l'intérieur du choix artistique qu'on lui donne tel quel en fait. Donc c'est un deuxième souffle final. Et puis après, quand il y a une entente comme ça entre le son et le mixage, ça peut faire des bons sons magnifiques. Bien sûr aussi, le mixeur, il va intégrer la musique. Souvent, dans le cinéma français, on reçoit la musique très tard. C'est un petit peu, difficile pour le montage son souvent, parce qu'on en souffre, dans le sens où souvent, pour une musique, on va devoir faire abstraction de choses qu'on a faites, et puis des fois on a fait quelque chose qui nous a pris du temps et de l'énergie, on va balayer comme ça parce que la musique est là et que le réel va dire musique. Mmh. Donc c'est vrai que malgré tout, c'est aussi avec l'intelligence du mixeur que cet assemblage de musique et de montage son, même s'il arrive a posteriori du montage son, c'est lui qui va mettre en lumière ça et qui va pouvoir rendre et mélanger les choses de belle manière, en fait.
Absolument, tout à fait. Voilà. Normalement, ça marche que ça. D'accord. Ouais. Entendu. Alors, on va revenir un petit peu maintenant sur Mesrine, je crois que c'est votre dernier projet. Vous travaillez en ce moment sur Blood, je crois, The Last Vampire.
Voilà. Blood, en fait.
D'accord, entendu. Ouais. Et donc, voilà, pour revenir un petit peu sur Mesrine, finalement, quel a été, grosso modo, le mot d'ordre de l'équipe? Quel a été le principe de méthode directeur? Qu'est-ce qui a été imposé par Jean-François Richet, metteur en scène? Comment avez-vous commencé? Quel a été le type d'acoustique que vous avez souhaité proposer au film? Et comment le projet s'est offert à vous, quelque part?
Alors, pour faire la genèse de la petite histoire de Mesrine à mon niveau à moi, je suis très passionné par ces milieux du banditisme. Enfin, passionné, on va dire fasciné plus que passionné, parce que j'ai pas de passion morbide pour ces gens, bien au contraire. Mais j'ai une idée de quelqu'un qui finalement aime beaucoup toutes ces histoires policières, tous les thrillers, etc. C'est vraiment un milieu et des choses de chez les humains qui m'intéressent beaucoup, hein, comment on bascule, pourquoi on devient un bandit, etc. Et donc en fait, tout ça pour dire que très tôt, dès que j'ai su que j'ai été en route, je me suis comme coué auto-persuadé qu'il fallait que je fasse ce film. Mmh. En fait, je voulais faire ce film. Mais bien avant de savoir qu'il le ferait. Je savais juste qu'il était dans les mains de Thomas Langdon et que ça allait un jour naître. On a commencé à en parler un petit peu plus à un moment précis, au moment où Barbet Schroeder était prévu pour faire ce film. Bon. Déjà, à cette époque-là, moi, j'étais un peu aux aguets de savoir, est-ce que le film entre en préparation, qui allait le faire, qu'est-ce qui allait se passer, qui était prévu, etc., etc. Et puis, un beau jour, ça y est, ça démarre. Et là, par des amis, de la post-production, j'ai réussi à capter l'adresse mail de Jean-François Richet. Oui. Et spontanément, je lui ai envoyé un mail en lui disant que c'était pour moi un sujet qui me passionnait, que j'avais réellement envie de travailler sur ce sujet, etc. Et puis, après, je ne sais pas, vous couperez peut-être parce qu'il ne m'a pas répondu, donc je ne sais pas s'il faut le dire, mais j'ai tenté une approche en fait spontanée qui n'a pas abouti.
Oui.
Peu de temps après, j'ai su que ce serait François Gros qui mixerait ce film. Donc évidemment, j'ai appelé François Gros. J'ai demandé à François, je lui ai expliqué toute la passion que j'avais sur ce film, etc., et que j'avais vraiment envie de travailler. C'était le film de ma vie, quoi. Et donc il a pris bonne note, il m'a dit, écoute, de toute façon, je vais présenter une liste de personnes à Jean-François pour le son, et tu donc feras partie de cette liste. Ensuite, j'ai su aussi qu'il y avait des difficultés avec le monteur image, le premier monteur image qui a commencé le travail, et que ensuite Hervé Schneid est venu est venu remplacer le premier monteur. Mm-hmm. Donc j'ai sauté sur mon téléphone, puisque ça, ces gens-là, c'est quand même des gens que je connais très bien. Et je lui ai dit tout l'enthousiasme que j'avais à l'idée de faire ce film, etc., etc. Et pareil, banco, Hervé m'a dit, écoute, pas de problème, on a déjà travaillé plein de fois ensemble, je vais proposer Gérard Hardy et Alexandre Guilmère à la bande-son de ce film. Donc j'étais fou de joie. Puis finalement, beaucoup de mois ont passé, le film se tournait, et on n'avait pas encore eu de retour officiel si on faisait ce film. On commençait un peu à s'inquiéter parce que le temps passait, puis on disait, ce serait bien de savoir un peu le planning qu'ils vont faire et quand on va commencer à travailler. Et puis, un jour, la prod m'a appelé, le Franck Metz, qui est la personne qui s'est occupée de toute la post-production, pour me dire, voilà, Canal Plus va diffuser un 1 minute, on te l'envoie, fais le montage sans ça, Jean-François va passer demain, voilà, c'est, en fait, donc moi j'ai un petit peu pris ça comme un espèce de petit test, indirectement, quoi. Vincent Cassel va passer, il est très impliqué sur le son du film aussi, voilà. Donc ça a commencé comme ça, on a fait ce petit teaser qui a été effectivement diffusé sur Canal+, on a beaucoup sali exprès la voix de Mérine, parce qu'en fait c'était un petit peu, je ne sais pas si vous aviez vu ce petit teaser.
Bien sûr, c'était extrêmement efficace et formidable d'ailleurs, tout à fait. Oui.
On diffusait, voilà, on faisait le testament audio qu'avait fait Mérine, 2 jours avant qu'on attrape Cordes de Villancourt, il avait dit ça pour Sylvie à Jean-Jaco. Et en fait, on refaisait ce texte, on a même conformé, je sais pas si vous avez entendu, la musique de Midnight Express qui est derrière, enfin on a fait exactement comme c'était sur la cassette,
oui.
On a un petit peu sali, entre guillemets, la voix de Cassel pour que ça soit un petit peu ressemblant, comme ça que ça a un petit côté 70, quoi.
Uh-huh.
Et puis après, effectivement, avec un petit montage simple, mais voilà, sur l'univers carcéral, et bon. Et du coup, je pense que, quelque part, ça a dû être le départ. Et puis ensuite, voilà, on a commencé officiellement à nous annoncer qu'on allait travailler sur ce film. Et puis alors, pour revenir à votre question sur quelles ont été les directions un petit peu, en fait, on a maintenant séparé le travail en 2 pôles. Un pôle qui s'occuperait donc du montage ambiance, et l'autre pôle qui s'occuperait du montage effet.
Mmh.
Moi, j'étais prévu pour les effets. J'ai pu venir avec mon assistant John Gock. Et puis en fait, j'avais un deuxième assistant qui au départ a été prévu pour faire le super assistant des 2 équipes de montage, pour faire le pont un peu qui relie les 2 équipes, si je peux parler comme ça,
mmh.
Sébastien Jeannot. Et donc on a commencé, et alors en fait nous ça a été très simple, Jean-François nous a dit je veux un son réaliste, je veux pas un film à l'américaine, et je veux quelque chose d'extrêmement fidèle à la réalité, dans tout. Je veux les armes qui soient le son des vraies armes, je veux des voitures qui soient les vraies voitures, etc. Donc en fait, on a nous dérushé un peu tout ce qu'on avait envoyé. En fait, c'est Sébastien qui lui a dérushé tout le direct pour en ressortir et en extraire tout ce qu'on pouvait récupérer qui aurait pu nous aider nous sur le montage des effets et bien sûr tout ce qui pouvait servir au montage des ambiances. Premier dépouillement, ça a été ça. Et ensuite, si vous voulez, moi j'ai demandé à la prod. Voilà, je leur ai dit, bah, écoutez, en fait, on n'a pas assez pour tout faire. Il me manque beaucoup de choses au niveau des armes, il faut enregistrer des armes, etc. Et puis après, ça a été, c'est pour ça que j'ai remercié la prod à la cérémonie aussi,
oui.
Pour les sons additionnels qu'on a dû réenregistrer, c'est que ça a été mon petit combat pour leur dire que si on voulait vraiment avoir un son original, si on voulait que ça colle à l'image, que ça soit réaliste, il fallait absolument qu'on réenregistre toutes les voitures du film qui étaient acteurs en fait,
oui.
Et qu'il fallait qu'on enregistre toute la gamme des armes, et il y en avait quand même plus d'une vingtaine.
D'accord.
Donc ils ont fini par accepter, et donc ça a représenté quand même toute une logistique, un tournage sonore qui a représenté du travail de préparation, et puis vous voyez, on a réenregistré quand même 16 voitures, donc que ça soit une R12, une R14, ou que ce soit une 204, ou que ce soit le gros Dodge qui vient faire l'attaque de l'USC, enfin on a absolument tout enregistré, toutes les voitures qui jouent quelque chose,
mm-hmm.
L'AMG du copain de Mérine, etc., tout a été refait. Et donc en fait, il n'y a pas une seule voiture dans le film qui n'est pas remontée, en fait.
D'accord.
Mais voilà, c'est très naturel, parce qu'on a pu faire ces enregistrements, et puis ça a été exactement pareil avec toutes les armes. On a tiré plus de 2000 balles, en fait, pour réenregistrer toutes les armes, des balles à blanc, mais qui nous donnaient vraiment la sensation acoustique qu'il fallait. on a réenregistré ses armes exactement sur le décor de l'USC. Donc j'ai été très très bien, pourvu, c'est pas le bon mot que je cherche, mais comprenez, au niveau de toute l'attaque de l'USC, j'avais carrément les armes et l'acoustique en plus, quoi. Donc c'était vraiment formidable.
En fait, vous souhaitiez préserver donc, aussi, l'acoustique des lieux en permanence. Ça me fait penser à quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Richard King, qui a été le mixeur et le monteur et sound designer également d'un film qui s'appelle Master and Commander. Ouais. Et Peter Weir, le metteur en scène, d'origine australienne, avait exigé que le son des canons sur les bateaux soit absolument le plus réaliste possible. Et tous ces sons ont été enregistrés, effectivement, durant plusieurs semaines, je crois, un peu comme vous l'avez fait, effectivement, sur Merin.
D'accord. Ouais, ça, je savais pas. Et c'est vrai qu'on a choisi des micros spéciaux qui encaissent une énorme dynamique et qui restituent vraiment un spectre sonore très intéressant, qui fait que c'est vrai que on se retrouve avec un film où les armes sonnent, mais elles sonnent pas putassières comme des grosses armes américaines, dire que bien sûr les Américains savent parfaitement aussi faire exactement des armes très propres, très clean et très réalistes, hein, mais ils savent aussi faire des armes très battues, très ventrues, très exagérées et très effets en fait. Et là c'est vrai que la prise de son de ces micros elle nous a permis d'avoir une prise de son ultra dynamique, donc des armes qui sonnent vraiment très bien et de manière assez simple, quoi. Donc ça a été magnifique.